18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
J'ai la gorge nouée tellement. Moi, je suis bouleversé. Domi, c'est quelqu'un de tellement humain, tellement généreux. Et là, c'est terrible, c'est terrible.
Domi, le surnom d'une légende qui a fait vibrer les fans de rugby. Christophe Dominici, 65 sélections sous le maillot bleu, 5 titres de champion de France avec le Stade français. Christophe Dominici a été retrouvé mort cet après-midi dans le parc de Saint-Cloud, près de Paris.
Polémique après l'évacuation violente d'un camp de migrants hier soir dans la capitale, place de la République.
L'IGPN, saisie de l'enquête, on tentera de comprendre ce qu'il s'est passé avec Guillaume Bié.
Sur le front de l'épidémie, tous les indicateurs, ça y est, sont au vert.
Avant Noël, on devrait atteindre les 5000 cas par jour, le seuil fixé par Emmanuel Macron, condition pour reprendre le contrôle de l'épidémie, mais on n'y est pas encore.
Le président devrait donc demander ce soir aux Français encore un peu de patience, tout en lâchant un peu de lest.
Les commerçants espèrent en tout cas entendre ce soir qu'ils auront le droit de rouvrir dès samedi.
Au sommaire également, la Ligue des champions de foot, Rennes et Paris ne doivent pas se rater ce soir.
Et la Bourse de Paris qui a terminé en hausse de 1,21% à 5 558 points.
Et puis la tendance météo, bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Des nuages au programme demain matin.
Oui, avec encore pas mal de brouillard, hein. C'est vrai que ça fait plusieurs jours que ça dure, et bien là, ils seront concentrés sur le nord-est demain. Du soleil dans l'après-midi et des températures qui se radoucissent. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On l'a donc appris cet après-midi, Isabelle, la disparition de l'ancien international de rugby, Christophe Dominici.
Oui, une légende du 15 de France qui restera à jamais celui qui a inscrit un essai mémorable face à la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du Monde 1999, un exploit qui propulse les Bleus en finale. Au commentaire, ce jour-là, en direct sur Europe 1, Christophe Cessieux et Pierre Albaladejo.
La balle reste toujours pour les Blacks, c'est que de l'avantage certain, alors que Galtier en a profité pour jouer au pied. C'est lui qui a subtilisé la balle.
Et il en met de la pression.
Oh, Dominici, formidable.
Dominici
va marquer.
Dominici va marquer. Extraordinaire récupération de Toulonnais, Christophe Dominici, qui est allé aplatir là-bas. L'essai du bout du monde, c'est peut-être pas le même, mais il est fantastique.
Dominici, une fois encore, qui a étalé son talent, reprenant au rebond magistralement un ballon, débordant le dernier défenseur pour aller marquer cet essai. Mais que c'est beau.
Christophe Cessieux et Pierre Albaladejo qui commandent donc cet essai incroyable hein, en direct sur Europe 1 face au All Black 99 demi-finale de la Coupe du Monde.
Axel May, vous nous avez rejoint. Les hommages pleuvent donc sur les réseaux sociaux, notamment les fans de rugby sont en deuil. Ils saluent un génie.
Oui, Domi, vous le disiez, son surnom l'appelait aussi Mini Kid, avec ce jeu imprévisible. Hein, du haut de son 1m72, il était capable de défier les gros gabarits sur le terrain. Pas besoin de connaître le rugby pour le repérer lorsqu'il était en équipe de France ou en club. C'était le petit là, qui courait à toute allure. Et il aura marqué hein, vraiment une génération de rugby, vous avez raison, avec ses 67 sélections en équipe de France, dont 3 Coupes du Monde. La Fédération française de rugby vient de réagir. Hein, une légende, un joueur emblématique, dit la Fédération. Lors d'un de ses derniers matchs, c'était lors de la Coupe du Monde en France en 2007, à l'issue d'une nouvelle victoire contre la Nouvelle-Zélande. Et je vous propose d'écouter ce souvenir.
Une fois c'est eux, une fois c'est nous, une fois c'est eux, une fois c'est nous. Et là c'est un autre tour. Je rêve jamais. 20 ans de ma vie, je rêve très peu. Et avant le match de l'Argentine, j'avais rêvé qu'on perdait, donc je l'avais dit à personne. Et avant ce match-là, j'avais rêvé qu'on gagnait.
Voilà, alors c'était donc en 2007, Christophe Dominici, après la Coupe du Monde, cette Coupe du Monde 2007, il annonce sa retraite internationale et il se réconvertit notamment comme consultant radio. Et sur les matchs, on le voyait lorsqu'on était dans la tribune commentaire d'Europe 1, par exemple au Stade de France, notamment Simon Rubin qui suit plus le rugby que beaucoup le rugby. On le voyait là en bas en train de discuter, de plaisanter. En club, il a été sous le maillot de Toulon, puis ensuite il a été sa ville d'origine, puis ensuite sous le maillot du Stade français, multipliant les titres de champion. Mais sa vie de star avait été marquée par des blessures. Il avait perdu sa sœur jeune. Il en avait gardé vraiment. Il le disait encore récemment, une grande blessure au fond de lui. Et puis, beaucoup plus récemment, il avait voulu rejoindre le club de Béziers et il n'avait pas pu acheter le club de Béziers, ce qui avait là aussi, semble-t-il, laissé des blessures en lui. Alors, on ne sait pas exactement comment il est mort, mais il se serait, c'est à prendre au conditionnel, il se serait donné la mort.
Merci beaucoup. Axel May du service des sports d'Europe 1, Christophe Dominici qui a passé, vous l'avez dit, la grande partie de sa carrière au Stade français avec lequel il a remporté 5 titres de champion de France. Écoutez l'émotion ce soir de Max Guasini, l'ancien patron du club.
Je suis bouleversé. On a vécu de tels bons moments ensemble. Alors je sais que ces derniers temps, il n'allait pas très bien, c'est tout ce que je sais. J'ai la gorge nouée tellement. Moi, je suis bouleversé. Domi, c'est quelqu'un de tellement humain, tellement généreux. Et là, c'est terrible, c'est terrible. On a été 5 fois champion de France, oui, bien sûr. Oui, on a tout connu parce qu'il est arrivé en 97. Et c'est épouvantable. Il a 48 ans, Dominique. C'est épouvantable. Il a deux enfants, une femme. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Je suis bouleversé. On est tous bouleversés. On pleure tous. Voilà.
Voilà, Max Guasini, l'ancien patron du Stade français, qui réagissait donc à la disparition aujourd'hui de Christophe Dominici.
18h05, dans l'actualité également, la situation sanitaire et la nouvelle prise de parole attendue d'ici un peu moins de 2 heures d'Emmanuel Macron, intervention que l'on suivra bien entendu ensemble en direct sur Europe 1.
Les derniers arbitrages ont été rendus en Conseil de défense. Ce matin, le chef de l'État va donc annoncer tout à l'heure les prochains ajustements au confinement.
Oui, un allègement qui devrait être marqué par plusieurs phases.
D'abord, peut-être dès ce week-end, réouverture des commerces non essentiels, puis peut-être des facilités de déplacement à l'occasion des vacances de Noël, même si hier soir Jean Castex a mis en garde. Les réveillons sont des usines à Covid, a-t-il dit. Pour les cafés-restaurants, il faudra en revanche patienter sans doute au moins jusqu'à janvier.
On est loin donc d'un déconfinement, mais l'exécutif lâche quand même un peu de bride, Victor Delande, car les chiffres vont dans le bon sens.
Oui, tous les indicateurs de circulation du virus sont au vert. Le couvre-feu et le confinement ont marché. Le taux de positivité des tests diminue toutes les semaines, aux alentours de 14% en ce moment. On est actuellement entre 10 et 30 000 contaminations par jour. Et si on prolonge la courbe des cas, on peut voir à quel moment on pourrait atteindre les 5 000 contaminations quotidiennes, seuil fixé par Emmanuel Macron pour reprendre le contrôle sur l'épidémie. Jean-Stéphane Dersin est responsable au CNRS de la plateforme de modélisation Mode COVID-19.
Si on continue la descente telle qu'on descend actuellement, au 1er décembre, on sera plutôt à un peu plus de 10 000 cas. Et donc, il faudra attendre une quinzaine de jours supplémentaires pour atteindre les 5 000.
Mais attention à un nouveau relâchement, préviennent les épidémiologistes. L'objectif principal est de rester sous la barre de 1 pour le taux de reproduction. Actuellement, ce R effectif est de 0,65, mais nos comportements et les mesures annoncées ce soir par le chef de l'État auront forcément une incidence sur l'épidémie. Les spécialistes plaident pour un allègement progressif, ne surtout pas tout relâcher comme au printemps, pour ne pas connaître une troisième vague et un troisième confinement.
Victor Delande du service Société d'Europe 1.
Pour les commerçants, en tout cas, chaque jour compte et tous espèrent qu'Emmanuel Macron annoncera ce soir une réouverture dès samedi.
Et sans attendre, il se prépare à l'image de ce fleuriste parisien, Alain Vidal.
Ce matin, quand je me suis réveillé, je me suis dit, ça y est, on est au bout. Donc ben là, on vit de la boutique pour faire de la place parce que pendant un mois, là, l'état de la boutique n'avait plus beaucoup d'importance. Donc, on est en train de tout nettoyer, préparer pour accueillir les clients samedi, je l'espère. Il me tarde qu'ils parlent ce soir. Après, on ne sait jamais, puisqu'on ne sait jamais ce qu'ils nous réservent.
Un fleuriste parisien avec Carole Ferry.
Intervention que l'on peut qualifier...
Un fleuriste parisien, donc, avec Carole Ferry, et puis dans l'actualité
également, pardon, j'allais un peu vite en besogne. Deux enquêtes ouvertes à Lille et à Paris concernant un compte bancaire détenu par le ministre délégué au PME, Alain Griset.
Oui, compte qui a fait l'objet d'un signalement à la Haute Autorité pour la Transparence pour la Vie Publique en cause à un PEA, un plan d'épargne action, qu'il a omis apparemment de déclarer. Sur ce compte, il y avait de l'argent qui provenait de la Fédération de l'Artisanat et des Services, une instance qu'Alain Griset a présidée jusqu'à son entrée au gouvernement. Il reconnaît une maladresse.
Europe 1, Julien Bugier.
À suivre dans quelques secondes, restez avec nous, 18h08, la suite de votre journal. La police a-t-elle perdu ses nerfs hier soir, place de la République à Paris?
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et la suite de votre journal à 18h10 avec Isabelle Millet. On revient donc sur cette polémique qui enfle aujourd'hui.
Après l'évacuation d'un campement de migrants hier soir par la police, place de la République à Paris. On en parle tout de suite avec vous, Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1. Guillaume, ce qu'on entend derrière nous, c'est l'ambiance au moment de cette intervention.
Oui, intervention qu'on peut qualifier de musclée, Guillaume Bier, qui fait donc suite à l'installation de plusieurs centaines de migrants et de leurs tentes sur cette grande place de la République.
Oui, des migrants évacués mardi dernier à l'aube du campement de Saint-Denis au nord de Paris où ils étaient au moins 3000. Mais depuis, certains n'ont toujours pas d'hébergement. Alors pour marquer l'opinion, alerter les pouvoirs publics, une association leur a acheté des tentes et voulu monter ce campement place de la République pour rendre visibles ces personnes qui sont à la rue, explique Kirill Terilla. Il est responsable parisien de l'association Utopia 56.
On savait qu'il y avait ce risque qu'il y ait un démantèlement violent, mais que c'était un risque qui était nécessaire pour que les personnes puissent être hébergées parce que de toute façon, elles sont totalement invisibilisées dans le nord de Paris. C'est une idée fausse de dire qu'on instrumentalise la situation des gens, que on organise les opérations sans les concerter. Non, non, là, c'était bien les personnes exilées qui nous ont fait part de leur volonté de visibiliser leur situation. Et nous, on leur a dit que, bah, on était d'accord pour participer et pour organiser quelque chose.
Alors, en présence d'élus, de militants, d'avocats et de journalistes, 400 à 500 migrants se sont installés sur place. Intervention des forces de l'ordre pour empêcher cette installation, justement. Mouvement de foule, tension, poursuite des migrants dans les rues adjacentes. L'un d'eux tombe, victime d'un croche-pied de la part d'un policier. Scène filmée par des journalistes dont certains ont aussi été molestés.
Et des scènes qui ont choqué hein, jusqu'au ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il s'est passé, Guillaume, pour que cette intervention prenne ce caractère brutal et disproportionné, semble-t-il ?
Bah, ce qui est clair, c'est que la préfecture de police n'avait manifestement pas anticipé ce rassemblement. Les forces de l'ordre ont été déployées en urgence pour disperser ce campement au plus vite, avec les effectifs disponibles sur le moment, à savoir un escadron de gendarmes mobiles, la compagnie de sécurisation parisienne et surtout les quatre brigades anticriminalité de nuit de Paris et de toute la petite couronne qui d'habitude luttent contre la délinquance en flagrant délit. L'évacuation de migrants sous la pression, ce n'est pas vraiment leur spécialité. Ça n'excuse absolument rien certains gestes. Hein. L'IGPN est donc saisie, la justice aussi. Et le ministre de l'Intérieur s'est engagé à rendre publiques les premières conclusions administratives dès jeudi.
Merci Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1, intervention qui intervient et ça tombe mal en plein débat sur le projet de loi de sécurité globale, proposition de loi qui sanctionne, vous savez, la diffusion malveillante de l'image des policiers, notamment lors de manifestations, et qui a reçu un premier feu vert tout à l'heure à l'Assemblée puisqu'elle a été adoptée par 388 voix pour, 104 contre, 66 abstentions et devrait donc atterrir au Sénat en janvier.
Et on sera sur place à 19h.
Et dans ce contexte, ce sondage que vous révèle Europe 1 ce soir, sondage confidentiel que nous avons pu consulter, commandé par le gouvernement qui a voulu savoir ce que les Français pensaient de cette loi.
Eh bien, 58% d'entre eux considèrent que c'est une bonne chose car la diffusion des images met en danger les policiers et les gendarmes, contre 40% qui estiment à l'inverse que les citoyens et les journalistes doivent continuer à filmer et donc documenter les interventions des forces de l'ordre.
Et Jean Castex annonce qu'il saisira lui-même le Conseil constitutionnel sur le fameux article 24 après l'adoption de la loi.
La Ligue des champions de foot, Rennes joue son va-tout ce soir. Les Bretons accueillent Chelsea à partir de 18h55 tandis que le PSG reçoit Leipzig à 21h.
Un match que vous pourrez suivre en direct et en intégralité ce soir sur Europe 1, Julien Froment. En cas de défaite, non, je me moque parce que vous avez dit Leipzig.
Absolument, mais vous avez raison.
Peut-être.
Leipzig.
Voilà. Et en cas de défaite, Simon, Julien Froment, décidément, Paris serait au bord de l'élimination. Il n'aurait plus son destin en main.
Oui, voilà, il faudrait sortir la calculette. Hein. Regardez aussi ce que fait Manchester United ce soir contre Istanbul. En tout cas, une chose est sûre, le Paris Saint-Germain est déjà en très mauvaise posture. Jamais sous l'ère Qatari, il n'avait perdu deux matchs de poule. Et pour retrouver trace d'une élimination, il faut remonter à 2004, une époque où le PSG n'avait ni idée ni pétrole. Ce soir, il y aura le trio magique Mbappé, Neymar, Di Maria pour tenter d'éviter un accident industriel. Alors, l'adversaire reste normalement à la portée du PSG. Le Rasenball Leipzig est une bonne formation allemande, mais pas du niveau, par exemple, du Bayern Munich. Mais grâce à l'afflux d'argent de son propriétaire, une célèbre boisson énergisante qui donne des ailes, et bien le club d'Allemagne de l'Est, qui n'existait pas il y a encore 10 ans de cela, s'est fait une place sur la scène européenne, mais pas encore au point, théoriquement, de détrôner le PSG.
Merci Julien Froment, vous vous apprêtez à partir au Parc des Princes, vous nous ferez vivre cette rencontre dès 21h, aux côtés de Cyril Delamorinerie.
Oui, grande soirée foot, juste après l'intervention d'Emmanuel Macron et le débrief avec nos invités.